Troisième instruction.
Très rapidement, dans l'Ancien Testament, on distinguait assez, de manière assez tranchée, Dieu distinguait d'une manière assez tranchée ceux à qui il donnait le don de prophétie, et puis ceux qui ne l'avaient point, les prophètes et les autres. Et puis, conformément à la prophétie de Joël concernant la Pentecôte, il est entendu dans la tradition chrétienne, saint Thomas d'Aquin le dit expressément, que depuis la Pentecôte, tout le monde prophétise plus ou moins, tout le monde est doué, chacun de nous est doué d'un instinct prophétique plus ou moins fort, plus développé en principe chez ceux qui ont le charisme de la prédication peut-être, mais que nous avons tous, que Catherine de Sienne, par exemple, avait au plus haut degré, et toutes ces femmes qu'on a nommées docteurs de l'Église, sans parler de celles qu'on n'a pas nommées docteurs, et qui pourraient, non pas être nommées docteurs, parce que je pense que ça n'est pas tellement intéressant, mais être considérées comme des lumières prophétiques d'un degré supérieur au doctorat, tel que Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, c'est au nom de cet instinct prophétique que je souhaite que la prédication soit prophétique. Mais, elle ne peut pas l'être chimiquement pure, tout au moins dans mon cas, et je pense dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'elle se mêle de catéchèse. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu, mais à tort et à raison. À raison, parce que la catéchèse, c'est la parole de l'Église. Mais la parole de l'Église qui s'appuie, bien entendu, sur la parole de Dieu pour l'interpréter, l'expliquer, la développer, la préciser, la définir en des dogmes, ou la commenter dans les prédications, tout ça c'est de la catéchèse, c'est la parole de l'Église s'appuyant sur la parole de Dieu, ce n'est pas le vif de la parole de Dieu s'adressant directement au prophète ou au peuple par la voix du prophète. Voilà pourquoi j'ai fait cette distinction, et si je vous en reparle ce matin, c'est parce que je ne vais pas pouvoir me maintenir. Je prétends pas que hier j'ai prophétisé, mais je me suis mis le plus possible dans, disons, en présence de Dieu et de vos âmes, c'est-à-dire en présence de cette connexion que je souhaite établir comme prêcheur entre Dieu et vos âmes. Je partirai d'un contraste qui peut-être a été conscient chez vous, peut-être pas, mais qui va le devenir tout de suite par mes soins, entre les très belles considérations de François d'Assise d'abord et d'Hubert Simon à sa suite sur la joie parfaite, et puis l'image que, me semble-t-il, vous devez avoir, comme tout le monde, de la vie religieuse, de la vie chrétienne et de la vie humaine en général. Pour, je ne sais pas si la joie parfaite y tient une place obsédante. Obsédante dans les profondeurs d'une âme travaillée par Dieu, bien sûr, mais dans la psychologie quotidienne, oh là là. Qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui saute aux yeux de nous tous dans la vie quotidienne, et qui nous paraît source de problèmes, même par rapport à notre fidélité envers Dieu, notre fidélité à la règle, de notre fidélité à la vie religieuse, à la vie chrétienne, à Jésus-Christ. En gros, c'est deux sortes de choses qui apparemment n'ont rien à voir avec la joie parfaite. Ce seront ce qu'on appelle les épreuves, Alors, ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Les épreuves, les souffrances, les coups durs, la mort à l'horizon, les maladies, la vieillesse, les contradictions, la vie commune, maxima penitentia, n'est-ce pas? La grande pénitence, tellement grande que, au Moyen-Âge, quand il y avait des grandes pénitences publiques extrêmement sévères, infligées par l'Église, celui qui entrait dans la vie commune était dispensé de tout. Parce qu'on considérait que ça va bien. Il embrassait là une pénitence plus grave que tout ce qu'on pouvait lui infliger. Bon, alors, ça on sait ce que c'est. Le panier de crabe que nous constituons tous les uns vis-à-vis des autres dans la vie quotidienne, sans parler encore une fois des grandes catastrophes que collectives et individuelles que nous ne subissons pas toujours mais auxquelles nous pensons tout le temps. Et aujourd'hui, avec les médias, c'est beaucoup plus difficile encore qu'autrefois peut-être de les oublier. Alors ça, c'est ça la vie pour nous. Et puis, comment faire face à tout cela sans perdre confiance, avec générosité? Première difficulté majeure, si on traverse ce buisson d'épines, on va peut-être trouver la joie parfaite de l'autre côté, mais enfin, en attendant, pour le moment, on est plutôt dans la mouise. Hein? Deuxième difficulté majeure, qui nous semble également très loin de la joie parfaite, le péché. Il y a d'ailleurs un rapport, une relation entre le péché et les pénitences que nous inflige le péché de nos frères, de nos sœurs et de nous-mêmes. Notre propre péché est une source de pénitence, celui des autres aussi, mais il n'y a pas que ça. Il nous semble que l'accès à la joie parfaite nous est interdit par le péché. Alors, tout simplement, le péché originel d'abord. Alors là, voyez comme nous frôlons tout de suite les grands problèmes, des grandes hérésies. Quel est le poids du péché originel par rapport à la grâce, par rapport à la liberté, Pélage, le jansénisme, le calvinisme, toutes ces choses. Passons. En tout cas, à cause du péché, parce que nous sommes pécheurs, que nous l'expérimentons quotidiennement, que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de notre égoïsme, de notre orgueil aussi, de nos convoitises, de notre captativité à laquelle Père Simon a fait allusion. Bon, on voudrait bien se débarrasser de la captativité, nous on ne demanderait pas mieux. Et quelques moments dans la vie où on a l'impression de ne pas l'avoir été trop, ont été plutôt agréables à vivre effectivement. Seulement voilà, on peut bon. Ou si peu que fait ce qu'il peut, mais peu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit des élèves quelquefois. Hein. Nous faisons ce que nous pouvons pour appliquer la règle en telle sorte que nous débouchions dans la joie parfaite. Les résultats sont pas très brillants. Pourquoi? Ah, c'est la faute au péché. Notre péché, et dans lequel nous ne pouvons pas démêler très bien la part qui vient du péché originel, de ces séquelles qui résistent au baptême et à la purification de notre âme, qui n'a plus le péché originel, mais qui emporte les séquelles, le fameux fomes peccati, le foyer d'infection, qui demeure dans notre âme à la suite du péché originel, d'après la tradition de Thomiste elle-même. Bon, les péchés personnels et les foyers d'infection qui en résultent aussi, et qui ne sont pas prêts de disparaître comme ça, surtout si nous avons pratiqué péché véniel ou mortel pendant des années et des années, péché mortel peut-être pas pour certaines d'entre vous, péché véniel, bon, tout ça fait que ça nous paraît la barrière concrète dont on pourrait peut-être reprocher au Père de ne pas avoir fait état, qui nous empêche d'accéder à la joie parfaite. Bien. Qu'est-ce que je vais essayer de vous dire? D'abord une considération théologique qui pose un problème, mais qui prépare ce que je vais vous dire. Il y a tout de même des gens qui n'avaient à traverser, affronter, qui n'avaient pas ces obstacles qui sont les nôtres. Les anges. N'avaient pas le péché originel. Ils n'avaient pas les épreuves de la vie. Il ne leur a jamais été dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Rien de tout ça. Et Dieu leur a proposé la joie parfaite. Et certains ont accepté. Mais pas tous. Et justement, parmi les choses qui nous empoisonnent l'existence de la manière la plus terrible, sans laquelle toutes les épreuves que nous connaissons et tous les péchés qui sont les nôtres n'auraient pas cette dimension infernale, dont nous sentons bien la saveur de temps en temps, ben, s'il n'y avait pas le démon, clair ou sournois, de préférence sournois, il préfère ça, caché ou patent, il n'aime pas trop être démasqué. Alors, il se cache, c'est pour ça que vous pouvez peut-être ne pas avoir l'impression que le démon fait partie des grandes difficultés de votre vie. C'est une illusion. Croyez-moi. C'est peut-être la difficulté numéro un. Je vous le souhaite. Parce que c'est un bon signe. C'est un signe que vous êtes bien avec Dieu. Bon. Ou alors très mal. C'est l'un ou l'autre. Bon, ben, s'il n'y avait pas un démon, notre vie ne serait pas ce qu'elle est. Même avec les péchés, même avec les épreuves, même avec la pénitence infligée à nos premiers parents, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu enfanteras dans la douleur et tu mourras de mort. Tout ça, sans le démon, ça ne serait pas ce que c'est. Ça ne serait pas ce que c'est. Et grand Paul VI a évoqué dans une sorte de prophétie, dit que un jour toutes les grandes idées, toutes les grandes aspirations des hommes se réaliseront pour plus ou moins longtemps, mais enfin se réaliseront grâce à l'Église dans le monde, les grandes aspirations à la fraternité. Bon, Paul VI ne dit pas qu'on soit dispensé de la mort, de la souffrance et même du péché. Mais en somme, le tableau qu'il esquisse, c'est un tableau où on serait pratiquement débarrassé du démon. Ça serait déjà pas mal. Eh bien, ce fameux démon, qui donc fait partie de notre vie quotidienne, il n'avait pas à supporter les épreuves, la mort, la croix. Il était invité à entrer dans la joie parfaite. Il n'y avait pas d'autre problème pour lui que ce que dit vers Simon, pourquoi pas, faut être idiot. D'autant plus que ce que le Père dit sur la captativité, toutes ces choses-là, le démon le comprenait beaucoup mieux que nous. Lucifer, disons. Lucifer, puisque c'était son nom, le porteur de lumière, n'est-ce pas ? Il portait la lumière, le plus beau des anges, le comprenait beaucoup mieux que nous. Eh bien, il n'a pas su renoncer pour entrer dans la joie parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, nous entrerions en théologie pure, je le ferai peut-être, mais c'est plutôt conditionnel si j'avais le temps, je n'aurais pas le temps, ni le loisir, ni les forces, nous n'approfondirons pas ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une possibilité de péché, retenez bien la formule, elle est décisive, il existe une possibilité de péché, même si on n'est pas pécheur. Ce qui va contre tout notre instinct, c'est ça, c'est le début de ce que je voudrais vous faire comprendre. Nous pêchons parce que nous sommes pêcheurs, pas le laboureur laboure, le boulanger fait du pain, et le pêcheur pêche, voilà, c'est dans son métier, c'est normal. Alors, on est des pêcheurs, on pêche, oui. Eh bien, Lucifer n'était pas un pêcheur, et il a pêché. Bah, ça, c'est le froid. C'est pas la théologie. Après vient la théologie qui essaie d'expliquer pourquoi, comment c'est possible. C'est pas possible. J'ai ruminé là-dessus pendant toute ma vie, je peux dire, et au fond, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Ça, la foi me le dit. Ce qui est certain, c'est qu'il était dans un état de joie imparfait, évidemment. et qu'il a été invité à passer de la joie imparfaite à la joie parfaite, et que il faut croire que ce passage, indépendamment de tout péché préalable, même si on n'est pas un pécheur, même si on est innocent, de l'innocence originelle, est extraordinairement dangereux pour la créature. Car il y a un risque de refus. Voilà. Ou de déviation, ce qui revient au même, parce que c'est une déviation totalement libre, responsable, coupable, abominable, digne de l'enfer. Et là, la foi est extrêmement ferme. Ça s'est produit une fois, ça s'est pas produit deux, c'est pas comme nous, qui sommes lamentables, mais ce péché a été tellement grave, et lucide, et implacable, et sans possibilité de repentir, que le démon a constitué l'enfer, en quelque sorte, à lui tout seul, où Dieu lui a donné un lieu qui s'appelle l'enfer, et qui est le sien, encore que c'est plus mystérieux que ça, car il n'est pas certain qu'il y soit en enfer tout à fait avant la fin des temps. Alors là, je ne me charge pas d'analyser tous les textes bibliques très mystérieux qui parlent de ces choses, dans lesquels il sera un jour à la parousie, où il sera définitivement en place et non pas dans les airs, enfin dans les couvents, n'est-ce pas, en train de nous embêter. Bien, mais on ne nous embêtera plus au ciel. C'est terrifiant. C'est terrifiant, mais on peut se rattraper en disant, bon, nous ne sommes pas des anges. C'est pas nos oignons. Non, bien qu'on en subisse, conséquences. Si nous ne nous occupons pas des anges, eux, ils s'occupent de nous. Les bons anges, d'abord, beaucoup plus que nous n'y pensons, ça leur fait beaucoup de peine, dit le Père Lamy, que nous pensions si peu à eux, que nous leur demandions si peu de choses, comparé à tout ce qu'ils voudraient faire pour nous, que alors les mauvais anges, alors eux, ils ne nous demandent pas notre avis, pour s'occuper de nous. Ou s'ils nous demandent notre avis, mais d'une toute autre façon, vous comprenez, celle qui consiste précisément à leur ouvrir la porte d'une manière coupable, en telle sorte qu'ils puissent s'occuper de nous sérieusement. Bien. Enfin, concernant ce péché, on pourrait dire, bon, c'est pas notre affaire. Mais il y a nos premiers parents. C'était des hommes, eux, hommes et femmes. Ils étaient dans l'innocence originelle, c'était pas des pécheurs. Ils étaient dans la joie imparfaite. Et il leur a été demandé à eux aussi de pratiquer le renoncement. Et alors un renoncement très étrange, qui semble justement, là encore, c'est une illusion d'optique que je vais essayer de vous enlever, mais je sais pas si j'y arriverai, hein. Parce que ça a l'air d'être un renoncement exactement à l'envers du renoncement qui nous est demandé. Qu'est-ce qui nous est demandé à première vue? Première vue. Il nous est dit, détachez-vous des choses temporelles et attachez-vous aux choses éternelles. Vous qui êtes ressuscité avec le Christ, délaissez les choses d'en bas et recherchez les choses d'en haut où est le Christ ressuscité. Donc, cherchez la perle précieuse, et pour cela, le Christ est formel, celui qui abandonnera son père, sa mère, ses maisons, ses biens, tout, pour moi, pour la perle précieuse, pour la vie éternelle, recevra le centuple de Dieu ici-bas et la vie éternelle. Donc, renoncez à tout ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas la joie parfaite, et puis concentrez toute force pour acheter cette perle précieuse en abandonnant toutes les autres, qui s'appelle la joie parfaite. Renoncez aux choses de ce monde et recherchez passionnément. La porte des cieux est ouverte, ce sont les violents qui s'en emparent. La joie parfaite, oui, le bien divin, le ciel, l'amour de Dieu. Si vous regardez, si vous lisez le texte de la Genèse, et si vous admettez avec moi, alors là c'est une opinion personnelle, mais tout de même me paraît assez, oh, pourquoi, ne demande pas, elle est plausible, quoi. Je vous demande de me suivre, si vous voulez, un petit peu. Je ne crois pas à les contre-sens de l'Église en disant, oh, oh, cet arbre de la science du bien et du mal, c'était un arbre pas comme les autres, c'était un peu la perle précieuse, qui était en effet un arbre de la science du bien et du mal, selon que on s'en approcherait de la bonne ou de la mauvaise manière. Je pense que tel l'Eucharistie, dont saint Thomas d'Aquin dit « mors est malis vita bonis », ce même fruit, c'est un symbole, si vous voulez, l'arbre de la science du bien et du mal. Ça ne me gêne pas du tout que ce soit un symbole. Faites-en ce que vous voulez, faites-en un pommier, si vous donnez envie d'en faire un pommier, n'est-ce pas, pour croquer la pomme, bien d'accord. Puis alors faites-en un symbole, ça m'est égal, mais il y a quelque chose. Il y avait quelque chose autour duquel Dieu a formulé une interdiction. Ça, je pense qu'on ne peut pas évacuer ça de la Bible sans évacuer la parole de Dieu. Et la tradition de l'Église. Et la prêtre, quoi. Bon. Et de même, l'Eucharistie, il y a tout de même quelque chose d'analogue. L'Eucharistie, il est tout de même dit, attention, c'est la source de la vie, c'est une mendication qui va vous donner la vie éternelle, mais attention, pas n'importe comment. Que chacun s'examine avant d'approcher de l'Eucharistie. Ça a donné lieu au jansénisme, d'accord, qui a exagéré à partir de là le démon de Gatou, nous sommes d'accord. N'empêche que c'est vrai. On va pas approcher de l'Eucharistie comme ça, sans discerner le corps du Christ, et puis sans discerner si on peut, sans avoir au moins ce mouvement de Pierre, éloigne-toi de moi Seigneur parce que je suis un pécheur, sans avoir un peu la crainte que Dieu inspirait aux Israélites à partir du Sinaï. On va pas arriver comme ça, comme on prend le métro. Disons, ben voilà, allez, donnez-moi deux portions de carité. Ça marche, hein, comme dans un restaurant. Ça, c'est un inconcevable, ça. C'est un sacrilège. On ne s'approche pas de l'Eucharistie comme on s'approche d'un bistec ou d'un bout de pain ordinaire. Tout de même, hein, et un minimum. Et si on n'observe pas ce minimum, alors nous mourrons de mort. Ce fruit, cette nourriture mystérieuse sera pour nous la source d'une condamnation et d'une mort. Il y a un minimum. Eh bien, je rapproche les deux mendications. Est-ce que c'est une hardiesse excessive? Et alors, si je rapproche les deux mendications, alors je suis quand même très surpris. Parce que je dis, ben, nos premiers parents, apparemment, c'est exactement le contraire de nous. Tous les autres arbres, c'est-à-dire les nourritures terrestres, tu peux y aller.
Tu peux en manger dans le cul-là.
Il n'y a pas de renoncement en particulier. Accès libre, c'est le service. Vas-y. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un péché. Donc, toutes ces nourritures terrestres ne sont pas un danger. Justement, parce que tu n'es pas un pécheur, le seul danger que tu cours ne concerne pas les choses de ce monde. De ce côté-là, tu es en ordre. Tu es en grâce, tu es en amitié avec moi, tu sens très bien que rien ne vaut la perle précieuse, tu ne t'y trompes pas plus que les anges, tu ne risques pas d'être bête comme tu le deviendras, comme nous le sommes devenus, et de te laisser prendre à la duperie des sources qui ne désaltèrent pas, des fausses, des eaux qui ne sont pas de l'eau vive, de tout. Tout ça, tu es bien prêt avec tout ça, vas-y. Alors justement, mange, bois, profite de l'existence, chante, louange de Dieu, trouve que la création est belle, trouve que la création est bonne, et comme on le dit souvent, les bonnes choses que Dieu a faites, elles sont faites quand on est gourmand, enfin, elles sont faites pour être mangées, c'est pas toujours bien, mais oui, vas-y. Bon, mais oui, profite de tout ça, tu ne risques rien. Il n'y a qu'un seul fruit à propos duquel tu risques quelque chose, c'est justement celui qui donne la vie éternelle. Et au fond, qu'est-ce que nos premiers parents? Alors là, le texte de la Genèse me le prouve sans aucune hésitation. Qu'est-ce qu'ils ont dû répondre dans leur cœur quand ils ont entendu cette interdiction? Il est bien gentil, mais il n'y a que celui-là qui m'intéresse. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bien prouvé qu'il n'y avait que ça qui les intéressait, eux, précisément parce que eux n'étaient pas des pécheurs, seuls la vie éternelle, la perle précieuse, la joie parfaite, le souverain bien, la vie éternelle, le ciel, les intéressaient vraiment. Comme c'est différent de nous, comme c'est différent de nous. Voilà. Alors, je termine en staccato, en plaquant quelques accords très rapides, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, parce qu'il faudra que je m'explique, faudra que je me justifie de l'affirmation assez paradoxale que je vais vous offrir. Nous commettons dans la vie deux sortes de péchés. Nous commettons des péchés qui nous échappent parce que nous sommes des pécheurs. Des péchés que nous ne ferions pas si nous n'étions pas des pécheurs. Je n'ai pas besoin de vous les énumérer, vous les connaissez très bien, je les ai évoqués tout à l'heure, n'y revenons pas. Je dis simplement, ces péchés peuvent être graves, ils peuvent être mortels. Et un seul péché mortel suffit pour aller en enfer, on m'a appris ça dans mon enfance, je n'en rabats rien. Seulement, ici, une opinion personnelle, encore une autre, qui me paraît dans la ligne du Concile Vatican II, qui me paraît surtout dans la ligne de Thérèse de l'Enfant Jésus, et plus encore dans la ligne de la grande et immense tradition de l'Église et de l'Évangile. Et voilà pourquoi j'ose la proférer. Dieu est infiniment miséricordieux, nous aurons beaucoup à y revenir. S'il n'y avait dans notre vie que des péchés, même graves, même mortels, que nous commettons parce que nous sommes des pécheurs, soit par la faute du pécheur originel, soit même par la faute de nos péchés personnels antérieurs, à part une réserve dont je reparlerai, s'il n'y avait que ça, je ne crois pas que Dieu permettrait que nous nous perdions. Je crois qu'il nous offrirait sa miséricorde avec suffisamment d'efficacité pour que nous puissions être sauvés. S'il demande à Pierre de pardonner 77 fois cette fois, c'est pas pour ne pas en faire autant. Là, ce côté-là, j'ai l'impression que c'est pas ça. Ce ne sont pas ces péchés qui nous désolent, que nous commettons, qui sont graves quelquefois, qui en réalité, à eux tout seuls, risquent de nous perdre. Mais il y a dans notre vie, et ce sont ces choses-là que peut-être vous ne voyez pas bien, et c'est ça tout l'enjeu de cette retraite, je voudrais que vous le voyiez. Des péchés que vous pourriez commettre, même si vous n'étiez pas des pécheresses. Il y a des péchés que vous commettez, que je commets, que nous commettons, et qui ne sont pas dus au fait que nous sommes des pécheurs, mais qui sont dus au fait que malgré tout, il y a quelque chose dans notre vie qui continue à ressembler à la situation de nos premiers parents. Nous sommes dans la joie imparfaite, et nous sommes invités à dire oui ou non à une certaine folie. Et là, il n'y a pas besoin d'être un pécheur pour pécher. Ces péchés-là que nous ne commettons pas parce que nous sommes esclaves du péché, mais au contraire parce que nous sommes libres, comme nos premiers parents n'étaient pas esclaves du péché, mais ils étaient dangereusement libres, et les anges aussi, ces péchés-là que nous commettons aussi. Il n'y a pas que les péchés que nous commettons parce que nous sommes esclaves du péché. Il y a les péchés que nous commettons bien que nous ne soyons pas tout à fait esclaves du péché. Ce sont tous les péchés par lesquels nous n'accueillons pas comme il faut la grâce miséricordieuse de Dieu. La parole. Alors ces péchés-là reproduisent à leur façon le péché de nos premiers parents, malgré tout, à leur façon, d'une façon beaucoup moins grave, ce qui est très consolant, et j'aurai à vous le dire, là je vais très vite, d'une façon beaucoup moins grave, De sorte que nos premiers parents, ça a été comme des anges, une seule fois, et ça a été fini. Ils ont tout perdu. Pour un seul péché. Nous, non. Ça ne se passera pas comme ça, parce que nous sommes tellement lamentables, parce que ces péchés souverainement dangereux dont je parle et que nous pouvons commettre encore malgré tout, sont tellement mêlés avec les péchés qui nous échappent parce que nous sommes de pauvres pécheurs, que Dieu a pitié de cette condition humaine et qu'il lui est beaucoup plus facile de nous rattraper, même si nous avons pris le chemin qui mène à la perdition, parce que nous nous sommes détournés comme nos premiers parents, de la même façon et pour les mêmes motifs, et non pas parce que nous sommes des pécheurs, de l'invitation au banquet. Alors tout l'enjeu d'être prêtre, ce serait que vous compreniez, que vous déplaciez votre anxiété, vos scrupules éventuellement, votre recherche de la perfection, que vous inquiétiez un peu moins des péchés que vous commettez parce que vous êtes des pécheresses, et un peu plus des péchés que vous commettez parce que vous êtes libres.